Bienvenue à toutes et à tous, amis auditeurs. Vous êtes avec votre émission Sawa Ensemble. Et ensemble, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous intéresse. Bien sûr, l'éducation des enfants est au cœur des sujets de Radio Orion. Pour vous accompagner avec beaucoup de plaisir, Ossila et Raymond, bien sûr, dans la réalisation de cette émission. Et on parle aujourd'hui d'un ouvrage qui vient de paraître ces derniers jours, L'enfant et ses complexes, le développement, le langage, l'école, les écrans, les parents, chez les éditions Mardaga. Bien sûr, les auteurs de ce livre, 40 ans après, ils reviennent avec une nouvelle version, Jean-Marie Bess et Marc Ferrero qui est avec nous. Bonjour Marc Ferrero.
Bonjour, c'est l'âme.
Comment allez-vous?
Eh bien, écoutez, ça va bien. Simplement pour vous dire que le bouquin n'est pas encore paru.
Qui va paraître le 21 janvier.
C'est pas la peine de le chercher en librairie.
Alors, je ne sais pas si... En tout cas, je ne sais pas si c'est la tempête Bella qui vient de passer qui nous a perturbés. Mais enfin, c'est très bien le 21 janvier 2021 qui voilà, va apparaître. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de participer avec nous. Un très très beau livre d'ailleurs, 40 ans après sa première apparition, je me rappelle, le titre était L'enfant et ses complexes, l'Œdipe, la castration, l'infériorité, les différences, la rivalité. Ça c'était il y a 40 ans. Voilà. 40 ans après sa première édition, L'enfant maintenant, où ce livre vient avec un nouveau titre, L'enfant et ses complexes propose une actualisation nécessaire de la problématique. Bien sûr, pourquoi cette actualisation, Marc Ferrero?
Alors, tout à fait, c'est vraiment une actualisation, c'est même plus qu'une actualisation, c'est une refondation, puisque en fait, le livre fait au moins une centaine de pages de plus.
Hein. Ben, c'est 3 parties donc, et 12 chapitres.
Voilà. Et donc, avec Jean-Marie Bess, qui est au départ psychologue comme moi, et puis qui après a poursuivi une route un petit peu différente en devenant le directeur du laboratoire de l'Institut de psychologie à Lyon. Voilà. Et lui, il s'était plus centré sur les questions d'apprentissage intellectuel. Mm-hmm. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vais répondre à votre question quand même.
Donc. Bien sûr. On va avoir une présentation pour vous, bien sûr, et pour Marie Bess, Jean-Marie Bess, vous avez fait un travail colossal. Il est important que nos auditeurs sachent à qui on a affaire quand même. C'est des personnalités qui ont beaucoup d'expérience derrière eux. Alors, pourquoi cette actualisation, Marc?
Alors, cette actualisation, parce que en 40 ans, c'est incroyable comme le
déjà,
temps
oui.
a pu passer, et surtout comme tout a évolué. Alors d'abord, la société contemporaine aujourd'hui est complètement bouleversée par rapport à celle d'il y a 40 ans. Et on se posait la question de savoir, nous, si les questions qu'on avait posées en 1980 étaient toujours d'actualité. Si on éduquait toujours les enfants de la même façon, et si les ressorts surtout du développement psychologique de l'enfant étaient les mêmes. Alors on a essayé de répondre à toutes ces questions en s'appuyant sur une évolution mais fantastique. Hein, les auditeurs imaginent combien en 40 ans cette société
a
évolué. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui, on peut dire changer. Hein,
il y a l'adoption. Il y a la possibilité d'adoption par des parents de même sexe. Il y a le PMA, etc.
Voilà. On peut en dire deux mots, mais si vous voulez aussi parce que les couples parentaux ne sont plus aussi stable qu'il l'était auparavant, et ce, dans tous les milieux. Hein. Vraiment, sans exception, les familles recomposées sont multiples, les divorces sont...
ont multiplié.
Se sont multipliés. et les familles recomposées ont plus que doublé en 20 ans, entre 90 et 2010. Mmh. Et puis, il faut ajouter à cela les crises successives aussi qui ont perturbé la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire les chocs pétroliers, les chocs financiers et le pompon. C'est le coronavirus.
Eh ben voilà, c'est la totale en fait.
Voilà, c'est exactement, c'est la totale. Donc, ce qui fait que, avec toutes les radios en ce moment, on ne parle que du taux de chômage qui a bondi. Mm-hmm. Et évidemment, pour un psychologue, ça ne peut pas le laisser indifférent, parce que pour un enfant, comment s'identifier à une figure paternelle ou maternelle quand les parents ne parviennent plus à occuper une place sociale dans notre société contemporaine, hein, puisqu'ils se retrouvent sans travail. Mmh. Donc il s'ensuit une perte d'autorité qui n'est évidemment pas négligeable et qui retentit sur chaque enfant. Et puis quand même la grande modification de ces 20 dernières années, mmh, ce sont les écrans.
Exactement. On va y revenir. Oui, oui.
Oui, d'accord.
On va revenir. Oui. Allez-y,
oui,
allez-y.
Comme vous voulez. Non, je voulais simplement dire que écran, c'est un mot à double sens. Hein. Écran, c'est aussi bien l'obstacle, hein, faire écran, mm-hmm, que l'écran que l'on regarde. Voilà. Pardon, mm-hmm, pardon d'avoir fait.
Non, mais vous avez bien fait. En fait, je voulais présenter donc quand même votre itinéraire et celui de votre collègue qui vous a, avec qui vous avez collaboré pour nous donner ce bel ouvrage qui va sortir le 21 janvier prochain. je précise, ça a le mérite d'être clair. En tout cas, Jean-Marie Besse est professeur honoraire des universités spécialisées en psychologie du développement et ancien directeur de l'Institut de psychologie de l'Université de Lyon 2. Il a centré ses travaux de recherche sur l'étude du rapport à l'écrit et est consultant sur les questions l'illettrisme et l'électronisme. Vous allez nous faire le plaisir de nous expliquer ça parce que c'est trop technique. Il intervient aussi auprès d'adultes en situation de handicap. C'est pas mal ça. Donc on peut parler dans un avenir proche autour de ce genre de thématique.
De quoi il parle, quoi.
Et puis bien sûr. Et puis vous, Marc Ferriero, vous êtes psychologue clinicien et ancien enseignant en psychologie de l'enfant et de l'adolescent aux universités Lyon 1 et 2. Et vous avez dirigé un établissement médico-social pendant 20 ans, rien que ça. Au cœur des problématiques familiales, vous avez acquis une expérience de la psychologie de l'enfant et des dynamiques parentales. Vous êtes aussi formateur auprès des personnes dites aidantes. Donc, on a vraiment la totale dans ce livre.
Quasiment.
Quasiment.
Oh, pas tout à fait. Enfin,
mais... En fait, c'est le fruit de vos expériences, de vos études qu'on a dans ce livre là.
Et de nos réflexions, tout à fait.
Et qu'a changé justement votre réflexion à travers toute cette expérience là? Quelle vision portez-vous sur l'éducation contemporaine?
Je pense que aujourd'hui, éduquer un enfant n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça pouvait l'être il y a une quarantaine d'années, ou même il y a 20 ans, parce que les sollicitations aujourd'hui sont diverses pour les enfants. Et d'ailleurs, il en est de même pour les enseignants. Hein. Eux aussi se trouvent confrontés à des difficultés supplémentaires devant les multiples sollicitations dont les enfants peuvent être l'objet. On parlait des écrans il y a une seconde. Comment imaginer? Moi, j'étais frappé il y a quelques semaines par le fait de voir un enfant de CE2, donc 8 ans, parler à sa montre. Vous imaginez que quelqu'un des années 50 revienne et voit un enfant parler
c'est
à sa montre.
C'est fou, hein? Oui.
Ouais. Mmh. Voilà, et ben ce petit garçon, il était en train d'expliquer à sa maman qu'il était sorti de l'école et qu'il l'attendait. Voilà, donc
et quand à l'époque on voyait ça dans les dessins animés. Oui. Entre autres, moi je me rappelle d'un dessin animé qui s'appelait La bataille des planètes. Mmh. Où les héros enfin avaient une montre à la main et qui s'échangeait enfin la discussion à travers la montre. Et ben aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis.
Voilà. C'est une réalité aujourd'hui. Mmh. Et c'est pareil pour les smartphones, les téléphones. Quand vous promenez dans la rue, vous avez des gens qui sont hypnotisés, enfin fascinés par leur téléphone.
Oui.
Alors on sait bien, et pas forcément, ils consultent pas forcément les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais on voit bien qu'ils cherchent aussi leur chemin, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur GPS. Aujourd'hui, on ne demande plus son chemin dans la rue, on regarde son GPS.
C'est clair, oui. Voilà, on en parlait avec nos auditeurs là, juste avant vous. Notre sujet, c'était aujourd'hui votre livre. Et réellement, les parents se posent la question par rapport à l'éducation. Donc les enfants, ils n'arrivent pas en fait à travailler leur tête comme avant. Ils sont servis. Ils sont plutôt consommateurs que comment dire, ils produisent pas, j'ai envie de dire, la réflexion de l'intellect.
Je sais plus qui disait. Alors il y a un auteur qui a écrit un bouquin qui s'appelle La fabrique du crétin digital.
Oh là.
c'est un peu violent comme titre et ouais. Ça correspond pas tout à fait à la réalité. Mais en même temps, je pense qu'il anticipe de cette façon-là sur les quelques années à venir, hein, où on voit bien que... Alors, il y a un autre auteur qui parle du syndrome du poisson rouge à travers, justement, les écrans ou la télévision, où les personnes, ce que vous disiez à un instant, ne réfléchissent plus, ne pensent plus, ou alors ils s'autorisent à penser uniquement à travers le média mmh. qu'ils sont en train de regarder.
Est-ce dangereux de ne plus produire de la réflexion, docteur?
Bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, les grands créateurs de la Silicon Valley l'ont bien compris, puisqu'ils interdisent à leurs enfants d'utiliser leur smartphone, de regarder la télévision et d'utiliser leur création, vous voyez, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, etc. Tous ces grands, le nom m'échappe de ces personnages là, mm-hmm. Steve Jobs par exemple.
Oui, ils ont attiré l'attention là sur ce problème. En effet, oui.
Mm-hmm. Voilà, ils ont interdit à leurs enfants dans la Silicon Valley d'utiliser ce type d'appareil parce qu'ils savent qu'on ne pense plus à travers ce type d'objet ou ce type de fascination. Mm-hmm. Pour les écrans ou pour la parole des autres.
C'est un peu crétinisant quelque part.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est vous qui le dites.
Bah, oui, c'est le premier mot qui me vient.
Oui. C'est vrai que ça encourage pas le dynamisme intellectuel. On est d'accord. Hein,
ouais,
d'une
ouais.
autre manière. Non, mais ça fait des enfants des êtres passifs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent plus, qu'ils ne pensent plus et en plus qu'ils passent d'une chose à une autre, quoi. Ils zappent. Ils n'ont plus de cette capacité de concentration qu'on attend envers eux à un moment ou un autre. Hein, ils passent d'une chose à une autre. Ils papillonnent. Vous voyez
c'est ça. On pense. J'ai
pas
eu.
Tous, heureusement. Je vous interromps. Sinon, on va paraître pessimiste. Pas tous. Mmh. Mais il faut que les parents soient prudents. Et justement, dans le bouquin, à la fin, on donne quelques clés pour utiliser les écrans, par exemple. Ne jamais permettre à un enfant d'avoir un écran avant 3 ans, voyez.
Alors, justement, vous me tendez la perche, justement, pour vous poser la question qui est, quels sont les axes sur lesquels vous avez fait votre travail pour proposer ces clés à ces parents?
Alors vous avez vu, on a quand vous avez énoncé le livre, les sous-titres, ça m'a fait peur parce que on balaye un champ, on balaye des champs extrêmement importants, le développement, ouais, le langage, l'école, les écrans, les parents, tout cela. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que dans chaque domaine, le domaine du développement intellectuel et affectif de l'enfant, mm-hmm. on a essayé de dire un peu des choses dans le domaine... pour revenir là-dessus, par exemple, est-ce que vous savez qu'en 1960, en France, on utilisait 2000 prénoms. On en utilise 13 900 aujourd'hui, 14 000. Alors, ça veut dire qu'on a laissé de côté le processus de la filiation, quasiment, pour se fonder sur l'individualisation des enfants, mmh. en sachant que les prénoms, bien évidemment, vous vous rendez compte, passer de 2000 à 14 000, alors là, pour le coup, en 60 ans, on a passé un peu plus, mais 2000 à 14 000, c'est énorme, quoi. Avant, on partait le prénom de son père ou de son grand-père. Maintenant, on porte mm-hmm. des prénoms, des séries télévisées, pour revenir là-dessus. Mm-hmm.
Alors, dans la première partie de votre livre, docteur Ferrero, vous avez parlé des origines du complexe. Hein, donc, oui. vous avez parlé de l'enfant et les siens, le complexe d'Œdipe. Au-delà de l'Œdipe, en mâle d'Œdipe. La deuxième partie, vous avez parlé la prise ou les prises avec les complexes, des différences physiques aux différents.
Voilà, on a passé en revue, alors vous avez peut-être lu tout, énormément de problèmes que rencontrent les enfants depuis les yeux en passant par la taille, le poids, l'acné. L'appareil dentaire, tout cela.
Les difficultés de langage aussi, hein, oral et écrit.
Les difficultés de langage, la dyslexie, bien connue de tout le monde, les dys, quoi. Mm-hmm. La dysphasie, la dyscalculie, tous ces petits problèmes que les enfants peuvent rencontrer et qui prennent de l'ampleur si on n'y prend pas garde.
Et la troisième partie, vous avez parlé des complexes en famille, complexes scolaires, les complexes en traitement. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui regroupe beaucoup d'outils. Donc chaque parent, chaque éducateur pourrait puiser dedans pour dans un des secteurs où il a envie d'avoir des outils. Quoi.
Tout à fait. D'autant qu'on a essayé de décrire dans un langage accessible,
vulgarisé.
À tout le monde. Oui, sans pour autant sacrifier les concepts et les rendre trop bénins. On a essayé de s'en tenir à la réalité et à décrire tout ce qui se passe. Dans une famille.
En tout cas, on aura le plaisir, j'espère, de vous avoir parmi nous.
Oui,
une dernière question qui m'a été posée et j'ai trouvé que c'est intéressant de vous la proposer. On m'a dit que le système scolaire actuel ne suit pas l'évolution du cerveau de l'enfant. Que faire ?
Alors ça, c'est, je sais pas si on peut dire ça aussi brutalement.
Ça m'a été posé, je m'étais dit, et si on la pose à Monsieur Ferrero?
Oui. Écoutez, alors, ce que je pense que le rôle d'un enseignant, c'est vraiment d'être attentif à l'évolution intellectuelle de l'enfant, ça c'est sûr. Mm-hmm. C'est pas tant l'école que l'enseignant dans sa classe qui doit faire en sorte que le dialogue qui s'instaure entre lui et l'élève ne soit pas un dialogue intellectuel. Mmh. Enfin, pas seulement un dialogue intellectuel, mais qu'il soit attentif à la maturité de l'enfant. C'est comme ça qu'il faudrait peut-être se dire les choses. Si l'école n'est pas adaptée à l'enfant, c'est parce que l'enseignant n'est peut-être pas suffisamment attentif. Alors, c'est vrai que quand il y a 30 élèves par classe, l'école n'est pas adaptée.
Ça marche pas, ouais.
Voilà, l'école n'est pas adaptée. On est complètement d'accord. Mais vous savez, il y a des pédagogues, je ne sais pas si je dispose de quelques secondes, mais il y a des pédagogues comme Célestin Freinet et puis d'autres, enfin surtout Célestin Freinet, qui ont essayé, de Crolly aussi en Belgique, qui ont essayé de faire en sorte que le cerveau de l'enfant puisse s'adapter, ou plutôt que l'école puisse s'adapter au cerveau de l'enfant. Ça, c'est sûr. On a des méthodes pédagogiques qui permettent cela. Après, toute la question réside dans la formation des enseignants, voyez-vous.
C'est clair. En tout cas, on aura l'occasion d'échanger avec vous.
Bien volontiers.
Vous avez bien compris, je suis passionnée par la psychologie le développement personnel.
Oui.
Et donc, on aura le loisir de parler de plein de sujets avec vous. Merci encore une fois.
À votre service.
Et donc, juste à vous à rappeler nos auditeurs que la sortie de votre livre qui apparaîtra le 21 janvier 2021. Donc l'enfant et ses complexes, le développement, le langage, l'école, les écrans, les parents, chez les éditions Mardaga. Les auteurs sont Jean-Marie Besse et Marc Ferrero. On vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt,
au revoir,
merci.
Au revoir. Au revoir.